religieux, Ésaïe, il ne fait pas comme des grands prédicateurs évangéliques, aller voir les présidents de la République cathédrale, être en photo avec et s'enrichir. On a toute une liste sur Internet, et même dans la revue Vigie Secte, de pasteurs qui ont des milliards, des avions, des jets, et même des femmes pasteurs. Et pratiquement, on les a vus en photo avec le pape, qui a aussi des milliards. Tout ça, on ne voit pas Ésaïe trempé dans tout ça. Ésaïe est clairement clean, il n'a qu'à droit, qu'il soit tordu, qu'il soit bien, c'est l'homme de Dieu. Hein? Et donc il a une autorité spirituelle qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Mais à l'époque où il était, c'est une autorité complètement difficile. Quand quelqu'un vraiment aime Dieu, il est en difficulté avec la pression de tous ces gens alentour. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça pour Ésaïe d'être le prêtre dans le temple et le prophète en même temps. Le prophète que nous voyons dans les écrits est un homme qui a certainement beaucoup souffert de tous les tiraillements, et il devait y avoir des prêtres et des autres gens, personnes qui se disaient prophètes et qui disaient le contraire. Hein? Il faut bien mettre ça dans le contexte des tribulations que chaque fois reçoit la parole de Dieu, chaque fois qu'elle est émise par quelqu'un, il y a des tribulations qui jaillissent pour les contre. Donc c'est quand même un grand ministère qu'a eu cet homme. Il a été honoré, tout compte fait, après, parce qu'à Qumran, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Surtout dans les urnes, les écrits d'Ésaïe. Hein? En Akkadie aussi, en Égypte. Hein? Donc c'est un monument que ce livre. Il y a deux choses dans ce monument du message d'Ésaïe. Un, revenez à Dieu pour le peuple. Revenez à Dieu. Il est encore temps. Et malgré vos infidélités, il y a des promesses pour votre peuple, il y a des promesses pour l'accomplissement de cette royauté dont Michaël a parlé dans le psaume 21, et entouré de toutes les nations. Hein? Lisez les chapitres 60 à 66, vous verrez, c'est clairement l'accomplissement, le royaume de Dieu. Bon, il y a une autre chose, c'est qu'il y a un autre élément essentiel dans le livre d'Ésaïe, c'est la venue du Messie. Bon, le Messie, Jésus, le Messie, fils de Dieu. Et donc, on va essayer de lire les textes d'Ésaïe qui nous parlent du Messie. On va prendre la Bible, c'est une belle Bible, hein, ça, mais moi, c'est imbuvable pour moi. Trop de têtes de lettres et puis trop de fioritures tout à l'entour du texte. J'aime bien qu'il n'y ait rien à l'entour du texte, qu'il soit décapé, tout le reste. Alors, prenons Ésaïe au départ et mesurons l'importance de la présence de toutes les prophéties concernant Jésus, le Christ. Le Christ. Donc, au chapitre 1, c'est bien sûr une dénonciation complète. Au chapitre 2 aussi. Au chapitre 3, c'est la dénonciation de toutes les misères, toutes les misères de ce peuple qui se complaît dans le péché et qui pratique une religion. En se moquant de Dieu, hein. C'est comme aujourd'hui, hein. Dans Ésaïe, au chapitre 4, au verset 2, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront remplis de saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Vous imaginez, hein, les ordures des filles de Sion, verset 4, c'est vraiment ce qui a été décrit dans les chapitres avant. Et il y a encore des autres chapitres, hein, pour parler de toutes ces ordures. Alors, ce chapitre 4 est quand même une clé. On commence déjà à parler vraiment, le prophète commence à parler de Jésus, vraiment, du Christ, hein. Verset 4, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice, par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la maison de Sion, sur ses lieux d'assemblée, une fumée nue et fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Donc, voilà ce qui s'est passé pour Moïse, va revenir, en plus grand, en plus beau. Et bien sûr, c'est décrit aussi dans d'autres chapitres. Quand vous voyez un thème comme ça, dans Isaïe, il revient à plusieurs reprises. Il tape sur le clou, parce que il a affaire à des gens oublieux. Hein? Alors, au chapitre 5, c'est naturellement l'amour de Dieu pour Israël, qui est comparé à une vigne, et puis leur égarement, évidemment. Au chapitre 6, c'est la vision du roi, du ciel, hein, du Seigneur sur le trône. Or, si vous regardez bien, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Pensez bien que la Bible ne peut pas se contredire. Dans Jean chapitre 1, versets 14 à 16, vous voyez que nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique, issu du sein du Père, nous l'a révélé. C'est clair que la manifestation glorieuse de Dieu, même dans l'Ancien Testament, n'est jamais le Père. C'est soit de l'Esprit, sous la forme de la nuée, un Shekinah, etc. Ou c'est soit une vision, une théophanie de Christ. Et pratiquement, le Seigneur des Seigneurs, le Christ, fait ce qu'il veut, quand il veut. Il peut apparaître demain au président de Chine et changer l'histoire de la Chine. Comme il a changé l'habit de Saul de Tarse. Il faut toujours laisser la seigneurie au Christ. Il y a trop souvent dans des langages d'église, même les chaises évangéliques, dans les grandes organisations, les églises, les théologies, que ce soit dans l'église catholique ou orthodoxe, on sait presque les églises et tout le christianisme qui est seigneur. Mais moi je pense que le vrai seigneur c'est le Christ. C'est lui, le souverain maître, qui tient la barque. La barque est bien secouée pour que, de temps en temps pour que la barque ne se prenne pas pour le Seigneur. On est si vite orgueilleux. Alors, il y a évidemment une sanction sur Israël où les oreilles sont fermées, les yeux sont fermés au verset 9 à 11. Le pauvre Isaïe va dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple va avoir les oreilles bouchées et tout? Vous comprenez bien que quand Jésus va venir sur terre, il va être refusé. Pas par tous les juifs, parce qu'il y a à peu près 25-30 000 juifs qui se sont convertis, c'est le départ du christianisme. Mais tout le peuple n'a pas suivi, il a dit, il a choisi Barabbas. Et encore, après, on a persécuté les juifs convertis à Jésus. Donc, jusqu'à quand? Et vous trouvez la réponse dans Romains 11, 25, quand la totalité des nations est rentrée dans l'Évangile. Ce n'est pas tous les païens qui sont convertis, mais ils ont tous reçu l'Évangile. Quand tous les païens, toutes les totalités des nations ont reçu le message de l'Évangile, alors Israël revient, parce que les oracles de Dieu sont irrévocables. Lisez bien Romains. Si on avait su ça depuis longtemps en Europe, on n'aurait jamais été antisémite. Mais c'est toujours la même chose dans la Bible. On aime bien d'y voir certaines choses et ne pas voir les autres. Pourtant, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour être sage. Vraiment sage comme lui. Pas comme nous, on le pense. Là, c'est une sanction sur Israël qui va faire qu'on va crucifier Jésus. Ça va amener l'aveuglement des responsables qui vont crucifier Jésus. Quand vous avez, vous évangélisez, quand vous rencontrez quelqu'un qui est aveugle, ne vous attaquez pas à la psychologie de la personne ou à son passé, commencez pas à faire de la psychiatrie, de la psychologie et tout ça. Dites-vous, Seigneur, je pense que tu ne lui as pas encore ouvert les oreilles ni les yeux. Seigneur, je te prie de lui ouvrir. Simplement s'en remettre à Dieu. Il n'y a qu'en Dieu qui a le pouvoir de donner la vue spirituelle et l'audition spirituelle. De comprendre le message de Dieu. Donc, quand on veut être attentif à l'œuvre de Dieu sur la terre, il faut déjà vraiment être humble et se dire les personnes que je vais fréquenter, à qui je vais distribuer, à qui je vais parler, ne peuvent pas. Elles sont complètement handicapées spirituellement. Elles sont vraiment bouchées, mais bouchées, comme c'est mis dans Ésaïe 6, les bouchons n'ont pas été mis par nous. Il faut, Seigneur, que tu tires les bouchons. Ça va? Pourquoi est-ce qu'il y a des bouchons? Mais parce que regardez dans le péché d'Adam et Ève, ils sont chassés du jardin, et il y a des chérubins avec les pieds flamboyants, ils ne peuvent pas revenir vers l'arbre de vie. Ils ne connaissent plus Dieu. On ne revient pas vers Dieu par soi-même. Toutes les doctrines intuitives, d'induction, etc., d'expérience sensorielle, émotionnelle pour arriver à Dieu, sont que des mensonges de Satan. Ève s'y fait prendre. Ses yeux s'ouvrirent et tout était agréable. Et c'est sans suite. C'est sans suite. C'est la misère totale. Aujourd'hui, Satan refait la même chose, avec des choses agréables et soi-disant des yeux ouverts. Donc au chapitre 6, c'est un passage important. Mais ça amène la crucifixion de Jésus. C'est pour ça que dans les prédications de Pierre, il y a trois prédications au début des Actes des Apôtres. Et puis il y a des prédications d'Étienne, chapitre 7, et puis de Saul, Paul. Il y en a plusieurs. Vous dites, vous avez crucifié le prince de la vie, le juste. Et tac! Et pourquoi est-ce que vous l'avez crucifié? Et il s'explique. Alors, il explique qu'il est venu sur les Écritures, puis il explique, mais vous devez recevoir la grâce des bouchons ôtés, des écailles sur les yeux ôtés. Et donc, c'était un acte d'humilité essentiel que, par la prédication, Pierre, Paul, Étienne demandaient aux Juifs. Un acte d'humilité extrêmement important. Il fallait s'avouer vaincu par un Dieu qui n'a jamais accepté que le peuple soit rebelle comme ça. Vaincu et le péché est condamné. Il faut aller à Dieu parce que c'est lui. Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire à moi, dit Jésus. Jean chapitre 6, verset 63 et verset 35. Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Donc, c'est le chapitre 6, c'est extrêmement important pour comprendre des choses de la Bible, de l'histoire biblique, de l'économie du salut, comme on appelle ça. Bon, après, si vous voulez, il y a encore au chapitre 7 des histoires de rois. Enfin, on verra tout ça une autre fois. Chapitre 8. Alors, au chapitre 9, de nouveau, on aborde la venue de Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Donc, c'est clair, si je suis aveugle et que je n'entends rien, et je ne vais pas connaître Dieu, je ne vais pas aller dans la vie éternelle, j'ai beau pratiquer une religion, j'ai beau que je tue, que je vole, ou que j'aille faire le religieux dans le temple, je suis dans l'ombre de la mort. Et tout d'un coup, voilà ce qui est dit, une lumière resplendit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Alors, c'est l'annonciation du règne messianique, hein, de la venue de la lumière sur le peuple, la lumière qui resplendit. C'est un thème que Paul a beaucoup abordé dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 8, que la lumière de Dieu est venue sur la face de Christ, afin qu'on connaisse, on ait la connaissance du Père. Et pourquoi? Parce que c'était décrété déjà par Dieu, Genèse 1, 3, que la lumière se manifeste, soit. Alors, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guéri roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Imaginons bien que si les nations hostiles qui entourent Israël actuellement arrivent à forcer le système de défense d'Israël, à forcer, par une maladresse d'un responsable, ou par exemple des élections, des votes, hein. Parce qu'avec la démocratie, des fois, on va droit dans le mur, hein. Regardez avec la ligne Maginot, Monsieur Maginot, le président Lebrun qui était né dans la Meuse, qui n'a rien compris à la stratégie militaire et qui n'a pas préparé la France à se défendre, hein. Il suffit d'en changer, de mettre un responsable aveugle, et puis c'est tout. Israël peut demain, grâce aux élections, avoir quelqu'un qui ne prépare plus une véritable défense et qui pèse, qui bloque les moyens de défense. S'il vient une attaque sur Israël à ce moment-là, c'est cuit. Qui peut défendre Israël à ce moment-là? Seulement Dieu. Seulement Dieu. Alors, c'est sûr qu'il y aura des feux et des flammes sur Israël, comme il y en a déjà eu. Hein? Il y a déjà eu les femmes des camps de concentration, hein, pour les dévorer. Et maintenant, au verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ce sont des versets très bien pour les témoins de Jéhovah. C'est impossible. Ils ne peuvent pas résister à ça. Ils tournent, ils échappent, ils veulent échapper à la conversation, parce que chez eux, le Christ n'est jamais Dieu. Et c'est Dieu avec un petit dé. Dieu a créé le Christ a créé les humains, la terre. C'est la théologie du 2e, 3e siècle de Arius, en Syrie. Arius, l'évêque, l'arianisme.
Eh bien, ça vient des Grecs avec les éons.
Oui, mais ça vient du diable, surtout parce que, après, cette doctrine où le Christ n'est pas Dieu, hein, est restée. Par exemple, la riche commerçante de vêtements de pourpre Khadija, qui a engagé un gars de 16 ans, orphelin, eh bien, elle leur filait l'idée que vraiment le Christ n'était pas vraiment Dieu, tout en se disant chrétienne syrienne. Alors aujourd'hui, ici, dans nos familles, il y a des tas de gens qui disent chrétiens et ils refilent une conception médiocre de Jésus à leurs enfants et petits-enfants. Et ça prépare des fruits diaboliques. Il faut donner une doctrine pure du Christ. C'est à la fois la manifestation de l'humain et du divin en Jésus-Christ. Il est à la fois Dieu et homme. Ce que les musulmans appellent les associateurs. Appeler quelqu'un à la fois homme et Dieu, on associe la divinité et l'humanité, c'est un blasphème. Tout blasphème mérite la mort. C'est clair. Tout chrétien est un associateur. Je rentre l'autre jour chez toi, hein, et pratiquement, juste quand je passe la porte, il y a quelqu'un qui sort, qui était visiblement musulman, qui me dit, il me regarde, j'avais la petite Bible comme ça sous la main, mais ce n'était pas marqué, Sainte Bible, je le tenais comme ça. Et il me dit, vous êtes chrétien, vous? Je dis, oui, je suis chrétien. Donc, à quoi il reconnaît? Et 20-30 mètres avant, sur le parking, j'ai déjà eu un cas avec un autre, un Sénégalais. Donc, quand on est en train de circuler, dans mon midi, dans Longwy, c'est spécial. Il y a vraiment des combats spirituels dans Longwy. Hein, il y a une implantation très forte de l'islam qui est en train de se développer, mais très 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 forte. Et dès qu'on apparaît, ils sont avertis par qui? Leur simple intelligence? Non. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu est identifié tout de suite si celui qui est en face est branché sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre qui n'aime pas Jésus. Alors, cet enfant qui nous est donné, c'est un admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est donc quelqu'un qui dérange à la fois les témoins de Jéhovah, les juifs traditionnels et les musulmans. Ce message est clairement une provocation. Mais il est dans le livre, dans la Bible. Il est. Donner à l'Empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Donc ça revient au thème du psaume 21 que Michael a commenté. Bon, continuons plus loin. Il y a bien sûr des malheurs pour le roi là, hein, parce que la Syrie attaque, etc. Et puis, le prophète lui dit, tu veux un signe? Il n'en veut pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas de signe. Parce qu'alors, ils devraient changer. Ils préfèrent les signes habituels qui les arrangent, qui ne dérangent pas trop. Méfiez-vous de la routine, de l'aveuglement du traditionnel, de l'habituel. Si Dieu survenait et me disait qu'il est là et qu'il me demande quelque chose, je dirais, mais je n'ai jamais choisi de te suivre. On peut être provoqué par Dieu et à un moment donné, dans un événement, on se rend compte qu'on n'a pas décidé de le suivre, de le servir. Dans notre église, il m'est déjà arrivé que des personnes puissent me sortir des phrases pareilles. Que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Vous savez que, tout simplement, il y a peut-être un petit passage que j'ai omis, c'était... Il y a juste une petite prophétie avant, au chapitre 7. C'est ça, quand on a passé un autre, c'est comme ça. Chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ben, devant ce roi qui ne veut pas de signe de Dieu. Hein. Alors, il dit, ben, tu auras un autre signe quand même. T'en veux pas, mais t'en auras un quand même. Chapitre 7, verset 14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Bon, on sait très bien que le Christ est annoncé à ces aveugles spirituels. Continuons dans la lecture de la Bible, au chapitre 11. Si quelqu'un veut lire du verset 1 assez fort, hein, à 10. Sans tarder, s'il vous plaît.
Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un « oui dire », mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la crique. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Alors en ce jour, la racine d'Isaïe qui se dressera comme une bannière pour les peuples sera recherchée par les nations et son emplacement sera glorieux.
Voilà, tout ce thème ici est bien entendu abordé l'identité de Jésus, hein, rempli de l'Esprit Saint, avec sa droiture, sa sainteté. Et quand Jésus vient dans la synagogue de Nazareth pour parler, il se présente comme celui qui est sous l'Esprit de Dieu. Hein. Et il y a un autre texte, évidemment, au bout de Isaïe, qui reprend ce thème. Et puis alors, après, il y a la victoire sur le désordre dans les animaux, le désordre sur les nations, le désordre sur l'univers. Tout sera comblé par la plénitude du Christ. Ça, c'est important, ce chapitre est fort important, parce qu'il définit déjà tout le ministère du Christ. Tout le ministère de la justice divine en Christ. Bon, maintenant, on doit aller plus loin. On va plus loin, il parle de toutes les tribus qui sont autour d'Israël, des Assyriens, de l'Égypte, etc. Tout ça, on passe, on reviendra sur tout ça une autre fois. Et on garde l'idée qu'on va vers le Christ à travers Ésaïe. Alors, au chapitre 27, verset 1, Véronique n'est pas là, non? Elle s'occupe du petit. Ah oui. C'est parce qu'on peut le mettre dans le lit chez nous. Hein. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent en fouillard, le Léviathan, serpent en tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Bon, quand vous prenez ce thème, c'est Satan, évidemment. Vous prenez ce thème, il faut le retrouver dans l'Apocalypse. Il faut le retrouver dans Genèse, quand le fils de la femme, donc d'Israël, le Christ, écrase la tête du serpent. Donc, c'est un thème de la victoire de Christ sur Satan. Même s'il n'est pas complètement expliqué là, il faut faire attention, ce n'est pas un hasard que ce soit là. Alors, au chapitre 28, il y a une prophétie qui est extrêmement importante. À force, moi, j'aime toutes ces prophéties dans Ésaïe, à force, quasiment, je les retrouve facilement, parce qu'elles sont une nourriture. Elles donnent, je vous ai dit, un, ramener Israël à la vraie adoration de Dieu, à la vraie foi, sortir du mensonge. Deux, découvrir le ministère du Christ pour le salut des hommes. Eh bien, ici, on est en train de continuer dans la recherche du ministère de Christ. Chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau. La grêle emportera le refuge de la fausseté. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Donc, on voit vraiment que le Christ va détruire le pacte avec la mort. Vous seriez étonné de savoir quel genre de pacte c'est. Hein? Il est décrit plus loin. C'est la religiosité, les règles, les préceptes, etc., etc. Oui, on en rit, mais attention d'être dedans. Attention d'être dedans. Au chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est que qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. » Ok ? Ça va avec l'autre texte que nous avons lu juste avant. Le chapitre 28. Ok ? Il faut faire très attention au verset 18. Alors, continuons. On revient bien sûr sur chaque fois des rois, etc., des puissances économiques, politiques. Mais, ça s'alterne avec le message concernant le Christ. Chapitre 32. Le roi régnera selon la justice, les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Vous voyez que Ésaïe, chapitre 32, verset 1 à 3, vous voyez que la sentence au chapitre 6 qui est posée sur Israël pour les rendre aveugles, qui va amener à tuer des prophètes et surtout à crucifier le Christ, cette sentence, ce décret de Dieu ne durera pas. Il est provisoire, puisqu'il y a une promesse de guérison, guérison spirituelle. Cette guérison spirituelle est décrite souvent dans Isaïe, c'est extrêmement important. Alors, nous allons continuer plus loin. Il y a beaucoup de choses à travers Isaïe, hein, mais il faut prendre le cap sur le Seigneur Jésus d'abord. Au chapitre 40, verset 3, déjà au début, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Quand on dit le peuple de Dieu, sur 1000 habitants, il y en a peut-être 25 ou 30 ou 50 qui sont vraiment son peuple. C'est ceux qui ont l'amour de lui, la crainte de lui, et qui veulent vraiment la sainteté. Le reste, tout le monde n'est pas sauvé, parce que tout le monde n'aime pas la vérité et la sainteté. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie par rapport au péché et ses conséquences, que son iniquité expiée, donc le rachat, la rédemption, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors, on voit le passage qui annonce Jean-Baptiste. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair verra que la bouche éternelle a parlé. La gloire de l'Éternel sera révélée. Pensez bien que Jean-Baptiste, qui a prêché, qui a préparé 11 apôtres sur les 12, il leur a dit que le Messie allait arriver. Il leur a parlé des prophéties de l'Ancien Testament, pas seulement celle d'Isaïe. Puis tout d'un coup, quand Jésus apparaît, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce qu'il sait? À ce moment-là, Jean-Baptiste révèle la gloire de l'Éternel. C'est qui la gloire de l'Éternel? C'est le Christ. Mais ce n'est pas la gloire des rois avec des armées, des trônes, des femmes, de l'argent, des épées. C'est la vraie gloire, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la douceur et la bonté de Dieu, c'est la présence totale du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu venue parmi les hommes. La gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ça, au moment où Jean-Baptiste avait un ministère extrêmement capital, les 11 apôtres qui sont restés les apôtres avaient été formés dans ce sens-là par Jean-Baptiste et la parole de Dieu. Le 12e n'était qu'un révolutionnaire, un socialiste de combat, qui voulait un bon leader pour chasser les Romains et tout le reste et réformer la société. C'était Judas. Il était très intelligent. Il s'est dit, il peut peut-être animer toutes les foules, les hommes, on en fera ce qu'on veut après. Mais le problème, c'est que Jésus, on n'en a pas fait ce qu'on voulait. Il ne voulait pas aller dans ce chemin-là, il n'y a pas été. Alors, Judas s'est dit, tant pis, hein. Celui-là, il est pas bon. Parce que tout compte fait, il voudrait que tout le monde soit des petits toutous. Mais moi, je veux que ce soit des révolutionnaires. Alors, vous voyez ici les 11 apôtres, c'est là qu'il faut les viser. C'est là qu'il faut les situer quand ils arrivent. Ils ont été préparés prophétiquement, c'est-à-dire par la prophétie. Si vous voulez avoir une vie solide, vous devez toujours être prophétiquement préparé. Pas simplement sentimentalement préparé, par besoin, par peur, par intérêt. Prophétiquement, c'est-à-dire ça repose sur les prophéties de Dieu. Votre foi doit être construite sur la parole. Chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera justice aux nations. Vous vous rappelez qu'on a lu déjà il n'y a pas longtemps hein, au chapitre 11, et il annoncera justice aux nations, donc la sainteté. Hein. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Donc il n'est pas un dominateur, il n'est pas un leader qui galvanise les foules et qui se fait mettre sur les pavois, hein, et qui prend un cheval et qui va couper la tête à tous ceux qui ne sont pas d'accord. Hein. On voit que c'est une profonde humilité, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, c'est-à-dire l'image d'un pêcheur, d'un homme qui a peut-être encore une chance qui soit sauvé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles, donc les nations, espèrent sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Vous pensez à Paul quand il parle aux Athéniens, le Dieu qui donne la vie, le mouvement et l'être. Là, le verset là. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. C'est le serviteur. Le 42, c'est en hébreu, c'est Eved Yahvé, c'est le serviteur de Dieu. Fidèle, rempli d'Esprit Saint, doux et humble de cœur. Alors, au verset 6, hein, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. De leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis là, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Alors, le cachot spirituel dans lequel beaucoup d'humains sont. Il y a énormément de gens qui sont en prison, dans des cachots, avec des portes bien fermées et des barreaux. Le problème, c'est comme un canari. Hein. Le petit œuf, il a éclos, le canari est né dans la cage, il va mourir dans la cage, il ne sait pas qu'il a la liberté. Il se plaît dans sa cage, on ouvre la porte de la cage, il ne sort pas. Pour beaucoup de gens, ils sont comme le canari, qui reste dans la cage même quand on ouvre la porte. Pour beaucoup de gens, même vous annoncez Jésus, ils ne veulent pas de la porte ouverte qui va vers Dieu. Ils préfèrent rester dans leur prison. C'est, voilà le poids de la prison. La prison du péché et de l'aveuglement, qui fait de l'individu un être habitué à la médiocrité, à la déchéance, au manque de vie, à la mort spirituelle, qui fait de l'homme un habitué de l'obscurité. Quand vous, si vous êtes enfant de Dieu et que vous allez au contact de quelqu'un, dites-vous bien, écoutez, regardez, priez pour comprendre où la personne en est. Vous avez des explications là. Quand une personne parle, ce n'est pas forcément ce qu'elle dit qui est important, c'est ce qu'elle est. Dans quelle situation spirituelle elle est. Ce qu'elle dit, les perruches font du bruit, les perroquets aussi, tous les oiseaux. C'est la situation de la personne. Et à ce moment-là, vous comprendrez qu'il y a des choses bien plus importantes que ce qu'on entend, que ce qu'on voit. Il faut demander à Dieu de comprendre, d'avoir le discernement sur les personnes qu'on rencontre. Impossible. Impossible pour un chrétien de servir Dieu. Impossible. Il ne reconnaîtra pas un prisonnier d'un libéré. Il ne reconnaîtra pas un aveugle de quelqu'un qui voit clair. Il va être chrétien charnel. On va pas loin avec ça. Alors, au chapitre 44, écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Parfois, c'est ça qui permet à des juifs de dire que toutes les prophéties d'Ésaïe, le serviteur, c'est Israël. Or, c'est faux. Il y a des moments donnés où la prophétie concerne Israël, et à d'autres moments, elle concerne le Christ. Mais la belle excuse hein, pour les théologiens juifs qui ne veulent pas de Jésus, c'est que, oui, c'est Israël. Et le problème, c'est que dans les synagogues, on ne lit pas le chapitre 53. C'est bizarre. Pour que le peuple juif ne comprenne pas qui est Jésus. C'est bizarre. Moi, j'ai rencontré des juifs convertis, des juifs messianiques. Ils n'avaient jamais entendu dans les synagogues la lecture du chapitre 53. Donc, c'est que les responsables savaient très bien que c'est ce qui déclenche l'explosion, c'est-à-dire la sortie d'une religiosité traditionnelle pour aller vers le Christ.
Hein? Ils ne lisent pas trop les prophètes en général. Ils lisent plutôt le Pentateuque.
Oui.
La loi, quoi.
Alors, chapitre Ésaïe 44, « Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur tes rejetons. » Est-ce que c'est pas ça que Jean-Baptiste a dit de Jésus? Moi, je vous ai baptisé d'eau, vous... Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas ça? Si, hein. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Donc j'appartiens, je suis en communion avec lui. Celui-là se réclamera du nom Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel. Il prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, des anges donc. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve? Oh, mais vous savez, ça c'est... Quand on admet ça, ben, la Bible prend une importance terrible. Alors, évidemment, il y a des prophéties sur... Babylone, sur Cyrus et tout, hein, sur la reconstruction de Jérusalem, qui n'est pas encore détruit, hein, qui va être détruit, mais qui sera reconstruit après, par un empereur iranien. Hein. Iranien, Cyrus. Incroyable, des vrais miracles qui sont annoncés. Perse et iranien, c'est...
Bon, c'est le même endroit maintenant, mais c'était pas...
Alors...
44, verset 8, deuxième partie, c'est beau.
S'il vous plaît.
On a un chant.
S'il vous plaît.
44, verset 8, deuxième partie. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. On a un beau chant.
Oui, on pourrait chanter après. Alors, continuons. Nous essayons de trouver l'œuvre de Christ qui est annoncée dans l'Écriture, dans Ésaïe. Alors, au chapitre 50, les amis. Tout ça, 8 siècles avant Jésus. Hein. Donc, il n'y a que Dieu pour nous faire des coups pareils. Hein, et montrer qu'il a l'autorité dans sa révélation. Chapitre 50, verset 4. Qu'est-ce qu'il veut lire?
Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre des divorces et par le...
Chapitre 50, verset 4. Hein?
Verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je peux continuer, s'il vous plaît?
Ah oui, oui.
Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappé et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
Continuez.
Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi je n'ai rendu mon visage semblable à un caillou.
Voilà. Donc vous avez la description de Jésus, évidemment, après son arrestation au Mont des Oliviers, voilà ce qu'il va subir. Mais sur le Mont des Oliviers, les amis, hein, quand on vient l'arrêter, regardez le verset 11.
Voici vous tous qui allumez un feu, qui formez un cercle de flèches ardentes, allez dans votre feu et dans la fournaise parmi les flèches ardentes que vous avez enflammées. C'est par ma main que cela est arrivé, c'est pour la souffrance que vous vous coucherez.
Donc, quand on vient l'arrêter avec des torches, etc., mais aussi dans les, au temple, quand on va l'interroger, il y a un feu. Hein, vous voyez cette meute qui tourne et qui se figure qu'elle va se débarrasser de Jésus comme ça. Hein? C'est facile, quand on est nombreux, c'est à celui qui crie le plus fort, hein? Et tout, et souvent ce n'est que du vent. Hein? La meute, c'est un ramassis de faibles ensemble, hein? Qui se croient forts par le nombre, c'est tout. Alors, nous pouvons continuer. Il y a évidemment, à la fin du chapitre 52, le verset 13 à 15, si quelqu'un veut lire.
Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour les peuples nombreux. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé.
Ok. Plein de gens aujourd'hui ne peuvent pas connaître Jésus. À la télévision, à Internet et tout, on vous racontera plein de choses, sauf ce qui est vrai.
Il y a quand même des choses, si on veut, on trouve.
Le Christ est mis de côté. Il faut vraiment, vraiment... La masse ne sait pas qui est Jésus. Et de toute façon, on leur dit que ce n'est pas la peine. Bon, là, ça lit assez, hein, de 36 façons. Alors, et puis on peut l'insulter, on peut faire des dessins, des choses, hein. Il n'y a personne qui va se soulever, hein. Mais si on fait ça avec Mahomet, ça déchaîne des bagarres générales dans le monde entier. Des attentats, etc. Et pour Jésus, ils sont tous gentils comme des petits moutons, les chrétiens. Donc on peut le salir, et puis pour finir, il est moins que rien. Comme à son époque, quand il était sur la terre. Ce qui ne veut pas dire que ça va durer. Mmh. Alors, chapitre 53. Et ça, c'est tout le chapitre le plus important concernant Jésus. Qui veut lire?
Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
Donc voilà l'annonce vraiment de la mort du Christ, hein, pour la rédemption des hommes, qui paye à la place de l'homme, du pécheur. Mais ça commence par un principe important. Le rejeton, au verset 2, il s'est levé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ce thème-là, il faut le reprendre au chapitre 11. Il ne faut pas oublier le chapitre 11 pour identifier celui-là qui n'a ni beauté ni éclat, dont personne ne s'intéresse. Il ne faut jamais oublier de le relier et d'aller le relire en même temps. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc il descend du papa de David. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, jugera point sur l'apparence, prononcera point sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec équité, il prononcera une droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Qu'est-ce qu'on voit? Cette personne d'une intégrité, d'une sainteté infinie, qui circule à travers les villages, qui parle aux gens, hein, eh bien, ça n'intéresse que quelques petits illuminés, quelques petits hommes, hein, 11 et quelques femmes, et tout compte fait, après, ben on va le tuer. Il faut relier ce... Parce que vous voyez dans 11 la nature même du comportement de la sainteté de Jésus sur terre. Et quand vous le revoyez ici, au chapitre 53, eh bien, c'est celui le rejeton, ce rejet-là. Dans un monde sans Dieu, dans un monde qui n'a que des mensonges à dire, sur Dieu, que des mensonges. Il ne peut pas plaire aux hommes, donc on va le tuer. Mais sans, en le tuant, ils accomplissent un sacrifice qui avait été annoncé. Lequel? Genèse 22. Le sacrifice annoncé est extrêmement important. Genèse 22. Abraham sur le mont Morija. Le mont Morija, c'est à Jérusalem. Pour l'islam, c'est une colline à 200-300 mètres de la Kaaba. Ça a été inventé au 6e, 7e siècle, évidemment. Avant, ce n'était qu'un tas de cailloux que personne ne regardait. Mais pourquoi? Parce que, tout simplement, les Juifs et les Chrétiens de Jérusalem n'ont pas voulu que Jérusalem soit la capitale de l'islam, c'est tout. Ouais. Même enfin, on a transposé tous les textes de la Bible à cet endroit. Genèse 22. Et puis, en plus, on a changé les choses, hein. On a supprimé Isaac, on a mis Ismaël. C'est un peu lourd. Parce que le texte de Genèse a 20 siècles. 20 siècles plus vieux que celui du Coran. Alors, Genèse chapitre 22. Quand Abraham est sur le mont Morija, à Jérusalem, donc, la ville n'existait pas encore, eh bien, Abraham est sur le point de sacrifier son fils. Hein. Alors, verset 11, chapitre 22, verset 11. Un ange éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ». Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, donc, Ésaïe 53. C'est là. On est au 8e siècle. On annonce qu'il sera pourvu pour la rédemption du monde par un être sans péché. C'est pour ça que je vous dis de toujours relier chapitre 53 d'Ésaïe, les premiers versets, au chapitre 11. Sans péché. Tandis qu'Isaac était pécheur. Que ce soit Ismaël ou Isaac, c'était des pécheurs, de toute façon. Un sacrifice parfait, agréable à Dieu, devait être sans faute, sans tâche, sans péché. Et donc, c'est ça. Ésaïe chapitre 11 et chapitre 53. Alors, ce sacrifice, dans Genèse, tout au début, chapitre 3, verset 21, Genèse 3, 21, quand Adam et Ève ont péché, et qu'ils sont malheureux d'avoir péché, parce qu'ils savent la catastrophe qui vient d'arriver, de leur faute d'avoir écouté Satan, d'être tombé dans l'orgueil. Vous savez, Hiroshima, Nagasaki, et toutes les autres bombes qui ont pété, 65 bombes dans l'atmosphère, et toutes les autres souterraines, c'est pas comme avant la Terre, hein. On ne supprimera pas l'influence de tout ça, hein. Tchernobyl et le nord du Japon, oh, c'est plus comme avant. Mais c'est la même chose avec le péché, c'est plus comme avant. Le péché, c'est pire qu'encore. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Adam et Ève se rendent compte de la catastrophe, et c'est Dieu qui leur promet un sacrifice parfait qui les sauvera, et, ainsi que leur dépendance, leur descendance. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Et ce verset-là est expliqué en Romains 5, 14, sur Adam et la marque de Christ. Voilà, c'est la peau de l'agneau sacrifié, c'est Ésaïe 53, le sacrifice de l'agneau sans tache. Il est donc prévu depuis quelques jours ou quelques heures après la mort d'Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève, donc la mort spirituelle, il est prévu une rédemption, elle est promise. Elle l'est rappelée, elle l'est promise à Abraham et à son fils, elle est promise par Ésaïe à tout ce peuple rebelle. C'est la ligne conductrice de la Bible. Ça ne sert à rien d'avoir une Bible s'il n'y a pas de sauvés, si on va tous en enfer. Autant rester couché, pas la lire. Hein. S'il y a un salut, une rédemption, une vie éternelle avec Dieu, ça vaut la peine de la lire et de comprendre pourquoi elle a été révélée aux hommes. Alors, les hommes ont eu en eux une mort, ici évidemment, et j'ai oublié un passage dans Ésaïe, c'était, il faut que je vous le montre, c'était le chapitre 25. Si quelqu'un veut le lire, vous allez voir les suites de la mort de Jésus, les résultats, le bénéfice de la mort et la résurrection de Jésus, du salut donné aux hommes, on le voit dans Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 9.
L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut.
Ok. Donc, la résurrection est suivie d'un banquet, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont cru, qui ont accepté le sacrifice de Christ, une résurrection pour la joie, pour un mariage avec Dieu, avec une célébration de la vie. Il n'y a plus de traces de la mort, du deuil, de la maladie, du chagrin. Apocalypse 19, C'est vraiment, tout est lié dans la Bible, à partir d'Ésaïe. Ésaïe, c'est une clé pour comprendre la Bible. Apocalypse 19. C'est quand même une merveille qu'un enfant, un petit berger musulman, retrouve les rouleaux du livre d'Ésaïe dans les grottes de Qumran, à la mer morte, en 1948. Jean-Claude dit, c'est un coup fourré des juifs qui l'ont trouvé, mais non, ou des chrétiens, mais non, pas du tout. Alors, c'est quand même un miracle parce que c'est le livre essentiel qui donne le cœur de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau. Alors, au chapitre 19 d'Apocalypse, nous allons lire du verset 5 à 9. Apocalypse 19, verset 5 à 9.
Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits enfants. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Cela représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. »
Voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est important. Continuons dans le livre d'Ésaïe, rapidement, parce que le temps presse. Chapitre 59, verset 20.
Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel.
Jusque 21, hein.
Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais.
Vous voyez qu'il y a une parole irrévocable de Dieu. Si vous pouvez lire Ésaïe 55, vous verrez, il y a toujours un effet à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement comme le soleil qui fait fondre la neige, c'est que la parole de Dieu va changer le monde. Les nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est fini cette misère de péché, de haine, de mensonge, de tricherie, de saleté. Vous voyez, c'est une parole toute puissante qui a créé le monde et qui crée le nouveau monde. Hein? Alors, au chapitre 60, verset 1, à 4.
Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras.
Continuons, verset 18 jusqu'à la fin.
On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut et à tes portes celui de louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais ce sera l'Éternel qui sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, la lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma splendeur. Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.
Alors, vous voyez le thème du rejeton. Ésaïe 11, début de 53. Vous le voyez, il est permanent. D'une terre, ça veut dire, d'une terre qui est aride, qui n'a plus rien, ressort quelque chose de vivant. C'est ce monde, il est mort ce monde. Il va vers sa perte totale. Et il va vers la vie. grâce. Alors, quand vous voyez ça, imaginez Jésus qui revient du Jourdain, où il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a été 40 jours dans le désert, où Satan a tout essayé pour le séduire. J'y suis bien arrivé avec Adam et Ève, je vais arriver avec lui. Mais non, pas du tout. Échec total. Après, il rentre dans la synagogue et c'était son tour de lire. Il prend le rouleau du livre, il l'ouvrit et voilà. 61, verset 1 à 3. Qui veut lire ?
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Enfin, l'Éternel m'a
61.
Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour tamponner tous les abîmés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des
Térébintes.
De la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
Voilà. Donc, vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une espérance tournée vers un véritable royaume de Christ. Quand vous voyez Marie qui reçoit l'annonce par l'ange Gabriel de la venue de Jésus, son Magnificat retrace toute la même foi, toutes les mêmes données, les grands axes du ministère du Christ. Hein? Alors, au chapitre 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos. » Imaginez, c'est Dieu qui dit ça. Après avoir condamné Israël à de lourdes sanctions, mais c'est pour ça que dans Romains chapitre 11, quand Paul dit « Les appels de Dieu, les promesses de Dieu sont irrévocables. » Il n'y a pas de raison d'être antisémite. C'est parce qu'on ne lisait pas la Bible qu'on est devenu antisémite en Occident. C'est d'ailleurs dans les pays où on ne la lisait pas, mais encore, malheureusement, dans les pays protestants, certains ont marché avec ça. Alors, dans la royauté de Christ, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il est venu pour sauver même des gens qui n'ont pas entendu parler de lui. 65, verset 1.
J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « me voici » à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.
Alors, vous voyez, c'est extrêmement important de se rendre compte que la révélation de Christ peut se faire même d'une manière incompréhensible à des tas de gens. Et, par exemple, vous avez le cas dans Isaïe au chapitre 19. Hein? Puis on termine, on sera fini. L'œuvre, le ministère de Christ aujourd'hui sur terre est toujours vivant. Il agit. Au chapitre 18, chapitre 18, verset 7, en parlant de ce qu'on appelle l'Irak et la Syrie, hein? À cette époque-là, ça s'appelait Assyrie. En ce temps-là, des offrandes seront apportées. Isaïe 18, verset 7. Les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, donc des anges, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, c'est le cas de le dire, hein. Il aime bien quand ça barque. Par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Tiens, voilà donc des gens qui ne cherchent pas le Christ et qui vont adorer le Christ à Jérusalem dans les temps à venir. Regardez bien. Au chapitre 19, c'est pour dire qu'en 65, verset 1, je me suis laissé trouver. J'ai été trouver des gens qui ne me cherchaient pas, je leur ai dit, me voici. Prenez pas ça pour de la poésie, hein. C'est un décret de Dieu. Comme la terre est ronde, c'est un décret, ça arrivera. Alors, Chapitre 19 d'Ésaïe, verset 21 et suivant, si quelqu'un veut lire, du verset 21 jusqu'à la fin.
L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, et il frappera mais guérira, et ils se convertiront à l'Éternel. Il se laissera fléchir et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction pour toute la terre. Que l'Éternel des armées bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et lis Israël, mon héritage. »
Alors, ça veut dire que quand Jean-Baptiste a dit, « de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham », l'annonce de Jean-Baptiste tient la route quand il prêchait. Et les pierres, vous voyez bien, il y en a des tas de pierres. Hein? Donc le ministère de Christ est un ministère du salut, et dans Ésaïe, eh bien, le Seigneur a mis le paquet pour nous faire comprendre que le Christ, c'est pas seulement le petit Jésus de la crèche, avec la meumeu et la bourrique, hein? C'est le roi qui est venu sur la terre, le roi du monde. Et c'est celui-là qui règnera. Adieu Satan, adieu le péché, adieu toutes les impostures, quelles qu'elles soient.
Jean 48, qui est Dieu ?